Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure pour notre chronique d'histoire locale. Dans le secteur qui nous intéresse autour d'Artenay, on a plusieurs associations d'histoire locale et on s'intéresse à des sujets très variés. On va vous en parler dans cette chronique. On a décidé, pour commencer, pour cette première émission de rentrée, de parler d'une discipline de l'histoire particulière qui s'appelle l'archéologie. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité Marie-Christine Marinval. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Régis.
Marie-Christine est spécialisée donc en archéologie. Je vais détailler un petit peu son parcours. Donc elle est agrégée en sciences naturelles. Elle a été enseignante à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et elle est docteure en archéologie environnementale. On va un petit peu parler de façon générale et générique de l'archéologie. On va aborder différents thèmes pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est que l'archéologie, à quoi ça sert, pourquoi on fait de l'archéologie, en quoi l'archéologie peut servir pour faire de l'histoire. Alors, Marie-Christine, vous allez un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui a fait finalement que vous avez commencé à vous intéresser à cette discipline particulière finalement de l'histoire qui est l'archéologie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu au départ de votre propre parcours finalement ?
Alors donc là, il faut que je remonte à l'enfance en fait. Il se trouve que, et on comprendra ensuite ma spécialité, que j'ai grandi au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et plus particulièrement dans la galerie de... Enfin, j'ai fait mes premiers pas dans la galerie de paléontologie d'anatomie comparée, donc au milieu des squelettes des animaux et des dinosaures au premier étage. Donc ça marque, et je crois que c'est pour ça que je suis devenue ce qu'on appelle aujourd'hui archéozoologue, donc histoire des relations hommes animaux dans le passé. Ça, c'est un premier fait, donc ça, c'était vraiment quand j'étais toute petite. Et ensuite, dans la région, et on peut même dire à Artenay même, eh bien, l'histoire ancienne, Beauceronne, m'intéressait. Et j'ai rencontré un jour André Thibault, qui s'occupait d'archéologie à Neuville-aux-Bois, et qui m'a dit, viens, les jeunes, là, venez autour de nous, et puis on va vous expliquer un petit peu. Et donc, je me suis retrouvée comme ça dans le monde associatif. Et je pense que c'est une très, très bonne école, le monde associatif. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, j'ai rencontré la famille Calvo. J'ai dit la famille Calvo, puisque Pierre et Martine sont sur Neuville-aux-Bois, donc plutôt à tendance historien, mais également en archéologie. Et puis, sur Artenay, Jean-Michel et Marie-Thérèse Calvo. Et donc, ces deux... famille Calvo était ce qu'on appelle à l'époque des amateurs éclairés d'archéologie, donc avaient accès à des autorisations de fouilles archéologiques en cas de sauvetage, dans le cadre de la construction, par exemple, d'un pavillon, et on tombait sur des restes archéologiques, et donc ils avaient la possibilité de demander l'autorisation d'en faire une étude avant que tout soit détruit et qu'on perde complètement l'information. Voilà. Et de fil en aiguille, ça m'a de plus en plus intéressée. Et il faut rendre hommage également aux enseignants, que j'ai été par la suite également, grâce à eux, je pense, et notamment à un professeur d'histoire de collège qui s'appelait Monsieur Lamure, qui a su passionner. Alors, il était en fait le prof de mon frère, mais on est devenu pas amis entre prof et enfant, mais enfin, disons, relativement proches. Et donc, il nous a permis de s'intéresser à l'histoire et l'archéologie en même temps. Donc, pour nous, ça a toujours été mêlé, et en plus, mêlé aux sciences naturelles, c'est-à-dire au monde de la nature, au monde des animaux, au monde des végétaux, les paysages, l'agriculture, l'élevage, etc. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, je suis devenue archéologue de l'environnement.
Et puis donc vous en avez fait après, par la suite, votre métier. C'est-à-dire voilà. que ça c'est bien de pouvoir transformer une passion, un centre d'intérêt en un métier. Donc vous avez dû avoir une carrière riche et intéressante.
Ah, je considère que ma carrière, enfin j'en suis contente. Mm-hmm. Je me suis toujours bien plu dans mon métier, premièrement d'enseignante, parce que là j'ai vraiment, je crois, eu cette chance d'avoir des enseignants qui m'ont donné envie de transmettre, et puis peut-être que intuitivement j'avais envie de transmettre. Et je dois remercier là aussi, pour la transmission et l'enseignement, les enseignants du primaire, et notamment une institutrice. Je pense qu'elle est décédée depuis fort longtemps, cette dame, mais je pense qu'elle m'a donné envie, véritablement, et elle m'a donné les outils pour essayer d'être l'enseignant le moins mauvais possible.
Vous êtes modeste. On a déjà là, commencé à aborder plein de thèmes différents sur l'archéologie, notamment le fait que, effectivement, quand vous avez commencé au départ, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le monde de l'archéologie, c'était un monde un petit peu amateur, ça vous l'avez expliqué. Finalement, n'importe qui, dès l'instant où il était intéressé par l'archéologie, n'importe qui pouvait participer à un chantier de fouilles. Alors qu'aujourd'hui ça a complètement changé et l'archéologie ça s'est professionnalisé et il y a même un institut de recherche national qui s'appelle l'INRAP, on va en parler
l'Institut
un petit
National
peu.
L'Institut national de recherche d'archéologie préventive.
Voilà, qui dirige finalement les chantiers de fouilles sur toute la France et donc finalement on est obligé un petit peu de passer par eux pour participer à des chantiers de fouilles, non ? Comment ça se passe ?
Alors, d'abord il faut rappeler que jusqu'aux années 80, c'était essentiellement des individus intéressés qui s'étaient formés aux techniques de fouilles archéologiques.
Sur le tas, un petit peu, finalement.
Sur le tas, en allant participer à des chantiers organisés par des chercheurs. Ouais. Et puis, finalement, ils demandaient l'autorisation, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Artenay, d'avoir le droit de sauvegarder, avant que tout ne disparaisse, des structures, donc en faire un peu la lecture et l'étude.
Oui, parce que, excusez-moi, donc il faut expliquer un petit peu ce que c'est que l'archéologie préventive, c'est-à-dire que à un endroit donné, au milieu d'un champ, on va découvrir une zone où il y a des ossements, des choses intéressantes. S'il y a un chantier, un bâtiment qui doit se monter à cet endroit-là, bah, avant de poser le goudron, avant de poser les murs et que tout soit sacrifié, finalement, on va faire de l'archéologie préventive et donc on va étudier ce qu'il peut y avoir d'intéressant à cet endroit-là. Quoi.
Oui, alors, donc, si je repars sur cette archéologie de sauvetage jusque dans les années 80, même un peu plus tard, mais en fait ce sont toujours des petites surfaces qui étaient ouvertes au moment où on tombait sur une structure. Et ensuite tout a démarré pour la France avec les fouilles du Grand Louvre, la cour Carrée et la cour Napoléon, au moment de la construction donc de ce qui est aujourd'hui le plus grand musée et le plus visité au monde, le Louvre, et notamment avec l'emplacement de la pyramide. Oui. Et donc là, pour la première fois, ça a été vraiment structuré. Mais c'était une association loi 1901 qui s'appelait l'AFAN, Association française d'archéologie nationale. Et petit à petit, donc, des techniques nouvelles ont été mises au point pour pouvoir fouiller des surfaces plus grandes, parce qu'on ne peut pas fouiller au pinceau et à la truelle 3 hectares, pour ne prendre que l'exemple de 3 hectares. Et
donc là, ça a nécessité
De nouveaux moyens, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodologies. Et en même temps, c'est toute la période où des nouveaux champs disciplinaires, dont on reparlera peut-être plus tard, vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus s'intéresser seulement à la structure du bâti, des murs, des caves, des pierres de construction, des produits manufacturés comme les poteries, les objets de la vie quotidienne, les bijoux, etc. Mais on va aussi s'intéresser justement à cette vie quotidienne, à savoir qu'est-ce qu'on mangeait, quelles maladies on pouvait avoir. Et pour cela, eh bien, on va rechercher dans ce qui est pour nous une mine d'informations, la terre, en fait, ce que nous on appelle le sédiment.
Donc on va pas seulement observer ce qu'on trouve sur le site, mais on va essayer de deviner un petit peu comment les gens vivaient.
Non, pas deviner, on ne devine
comprendre,
pas.
Comprendre, en tout cas.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va, à la fouille, non seulement prélever les céramiques, mais on va également prélever, par exemple, les restes d'animaux.
Des indices, finalement.
Donc, des indices. Parce que nous, il y a ce que nous, dans notre jargon, on appelle les artefacts, donc tout ce qui est manufacturé par l'homme, et les écofacts, tout ce qui vient, tout ce qui reste de la vie animale ou végétale qui a été conservée dans le sédiment. Et donc, lorsque vous mangez votre côtelette de mouton, vous ne mangez pas l'os, et vous rejetez la côte. Mmh. Eh bien, cette côte, on peut la retrouver en contexte archéologique. Et nous, on pourra vous dire, eh bien, au XVe siècle, sur cet emplacement, la population X ou Y du village où le roi a eu à table du mouton.
D'accord.
Et donc, voilà. Et puis, en même temps, on va également rechercher des indices beaucoup plus petits dans ce sédiment. Donc, ces indices plus petits peuvent être... toujours, si je reste dans le monde animal, bah, des restes de vertèbres de poissons. Donc, on ne va pas les ramasser à la fouille, là. Mmh. Donc, on va faire des prélèvements de sédiments. Mais dans ce sédiment, on pourra également trouver des restes de semences, de graines. Eh bien, par exemple, des grains de blé. Mmh. Comme ici, on en trouve très souvent dans les silos gaulois. Mais également, encore beaucoup plus petits, si on descend à une échelle d'observation plus fine, des grains de pollen.
D'accord.
Et avec ces éléments animaux et végétaux, eh bien, on va pouvoir commencer à retracer à la fois l'histoire alimentaire, à la fois les pratiques agricoles, des pratiques de domestication, et à la fois brosser le paysage de l'époque.
Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que le but final de tout ça, c'est de comprendre comment les gens vivaient à l'époque. De comparer finalement avec la vie d'aujourd'hui et voir comment les gens au Moyen-Âge ou
même plus anciennement,
comment on mangeait, comment on vivait, les interactions entre...
Comment on construisait, comment voilà. On habitait, comment on était socialement structuré et donc également, y avait-il des réseaux politiques, lesquels pouvait-il être ? Alors, pour toutes les périodes où on a des textes écrits, des archives, eh bien, on croise les données archéologiques et les données écrites.
Oui.
Donc, ce sont deux champs disciplinaires voilà. Complémentaires qui font l'histoire.
Alors, effectivement, on n'a pas défini au départ ce que c'était que l'archéologie. Finalement, l'histoire, on peut l'étudier de deux façons différentes, avec les documents écrits, et avec ce qu'on trouve sur le terrain, c'est-à-dire en faisant de l'archéologie. C'est un petit peu ça la définition
voilà, donc nous,
de l'archéologie.
Nous, on parle, on va dire, de sources documentées par de l'écriture, par de l'iconographie, qui peut être conservée aussi bien sur une paroi de grotte Lascaux que dans les archives départementales ou nationales. Et puis, il y a ce qu'on appelle les sources sédimentées, qui, elles, vont être recueillies dans le sol.
Sédimenté, ça veut dire finalement tout ce qui s'est accumulé au fur et à mesure des années, des époques.
Voilà.
Et qu'on peut découper tranche par tranche pour voir.
Exactement.
Il y a 100 ans, il s'est passé ça. Il y a 200 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il s'est passé
voilà,
telle ou telle
exactement.
Chose.
Donc si vous prenez l'exemple d'un dictionnaire ou enfin d'un livre assez épais, lorsque vous lisez un livre, eh bien, vous tournez les pages.
D'accord.
Et si vous ne savez plus ce que vous avez lu au chapitre 1, vous pouvez toujours retourner au chapitre 1.
D'accord.
Ou vous pouvez toujours retourner à votre source écrite conservée dans la bibliothèque. Nous, en archéologie, lorsqu'on a balayé la couche, on ne peut pas y retourner. Donc, on a comme si on avait déchiré notre page.
Ouais. Alors, c'est une image intéressante. Ce que je vous propose, Marie-Christine, c'est de faire une petite pause et on va, dans un deuxième temps, essayer de détailler tout ça. Il y aura plein de choses nouvelles et différentes à aborder. On se retrouve dans quelques instants. D'accord ?